Salut à tous et bienvenue sur Archéociné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran. Aujourd'hui, épisode 26. Avec nous, il y a Bloud.
Salut Bloud.
Salut Bruce, salut à tous. Et je crois qu'aujourd'hui, exceptionnellement, il y a un troisième type avec nous.
Ouais, et on va tout de suite découvrir qui c'est, il va se présenter tout de suite. Et voilà, il vient de se présenter. Enfin, c'est vrai que ça fait bizarre parce que c'est un film où il n'y a pas de musique d'intro réellement. C'est juste une petite. On est directement dans le film. Donc, c'est pas facile à reconnaître comme ça, mais bon, c'est Rencontre du troisième type. Donc,
ah, d'accord! Ah, c'était ça ma blague!
En VO, Close Encounters of the Third Kind. Donc, sorti en 77, c'est le cinquième long métrage de Steven Spielberg. Il a 41 ans quand il a tourné ça. Voilà. Et puis, on va attaquer par le petit Sino. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Bruce, pour nos auditeurs qui connaîtraient pas le film?
Alors, moi, c'est Blood, et toi, c'est Bruce.
Pourquoi t'as dit quoi? J'ai dit quoi?
T'as dit Bruce.
Oh merde, je suis encore bourré.
Alors donc il y a des faits étranges donc qui se produisent un peu partout dans le monde. Alors au Mexique, il y a des machines qui se mettent à remarcher, tu as des avions disparus de la Seconde Guerre mondiale qui reviennent qui réapparaissent. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, il y a des coupures d'électricité aussi dans l'Indiana. Enfin, il y a plein de phénomènes étranges un peu partout dans le monde. Et puis il y en a qui va chercher à savoir d'où ça vient quoi, tous ces trucs bizarroïdes quoi.
Ah, il s'appelle comment?
Roy Neary.
Yes. Ouais, donc lui c'est un des protagonistes du film hein, et puis en cours de route d'autres vont être témoins aussi de faits étranges et d'apparitions étranges et ils vont comment dire. Il y a aussi le petit garçon là, Barry Gilder.
Ouais, le petit garçon. Ouais.
Il y a sa mère aussi. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire comment elle s'appelle dans le film. Tous vont chercher. Ils vont avoir la même obsession, c'est-à-dire. On va le voir au cours de l'épisode, mais en fait, ils vont avoir le même but, en fait. Bien qu'ils viennent d'endroits et de milieux différents. Donc, du coup, je l'ai dit précédemment, réalisé par Steven Spielberg, assistant réalisateur Matthew Robbins. Au scénario, on a Steven Spielberg avec Paul Schrader, Jerry Belson, Matthew Robbins. À la production, on a Julia Phillips, Michael Phillips. Société de prod, c'est Columbia. En conseiller technique, on a quand même le docteur G. Allen Hynek. On verra un petit peu plus tard qui c'est. Voilà, quoi dire d'autre. Direction de la photographie, Vilmos Zsigmond et William Fracker. Voilà.
Bon, la musique de John Williams, bon, ça tout le monde le sait, je pense.
Ouais, ça s'entend bien. Qu'est-ce qu'on a? Et puis après, format couleur, Metrocolor, en 2.35. Panavision, 35 mm, stéréo Dolby, voilà. Durée, alors il y a plusieurs éditions, hein, parce que on a une durée de 129 minutes pour la version originale de 77, 127 minutes pour l'édition spéciale de 81, 131 minutes pour la version Director's Cut de 2001 et 137 minutes pour la version restaurée de 2017. C'est vrai que ça fait pas mal de versions, mais Spielberg, c'est vrai que c'était un des premiers à faire... je crois même que c'est le premier film où il a refait un truc de Director's Cut, pas l'édition de 2001, hein, parce que c'est un peu tard, mais son édition spéciale de 81 où il a remis des scènes, etc., je crois que c'était un
ouais,
des premiers.
C'est des scènes en plus, donc. Hein.
Ouais.
C'est pas des noms en plus dans le générique, tu sais, puis du coup, non, ça fait plus long.
Non, mais il me semble que c'était un. De mémoire, je crois que c'est un des premiers films à avoir eu le droit à une version de Director's Cut. Spielberg qui avait fait ça, à moins que ce soit Blade Runner, je me rappelle plus. Écoute, on va continuer en s'écoutant le premier extrait.
De quoi s'agit-il exactement?
C'est l'escadrille 19.
Et alors?
Ils étaient partis en mission depuis la base aéronavale de Fort Lauderdale. Ils faisaient des approches sur une vieille carcasse.
Quoi, l'aéronavale s'en sert encore de ses coucous?
Vous rigolez? Ces appareils ont été portés manquants en 1945.
Mais ils sont flambant neufs. Est-ce que les pilotes sont là? Je ne comprends pas! Où sont les pilotes de cette escadrille? Comment sont-ils arrivés jusqu'ici?
Ouais, donc comme tu le disais, ça c'est... Au tout début du film, il retrouve des avions qui avaient disparu en 1945, subitement comme ça, dans le désert, en Amérique du Sud, je sais plus dans quel...
Ouais, Mexique.
Ouais, c'est au Mexique? Ouais, c'est ça, ouais. C'est au Mexique. Bah ouais. À la distrib, qui on a
Nous
dans
avons
ce film?
Richard Dreyfuss, qui joue donc le Roy Neary. François Truffaut qui fait le professeur Claude Lacombe, Terry Gare qui fait Ronnie Neary, Melinda Dillon, ou Dylon, je ne sais pas comment il faut dire, qui fait Gillian Giller, et Bob Balaban qui fait David Laughlin.
Ouais, et puis à noter que les doublages diffèrent en suivant les versions aussi.
Sauf pour François Truffaut, pardon.
Ouais, parce qu'il se double lui-même. Mais on a le doublage de la version originale en 78 et on a le doublage de la version Director's Cut de 2001. Donc ils ont redoublé. Donc bon, de toute façon, après moi j'ai pas de vraiment de préférence. Les trois versions sont bien. La Director's Cut, elle est quand même plus complète. Steven Spielberg, bon, on le présente plus. On l'avait déjà abordé dans de nombreux épisodes. C'est un réalisateur, scénariste, producteur de cinéma américain, hein. Il est né en 46. Donc lui, il est issu de la deuxième génération de la nouvelle Hollywood dans les années 70, hein. Et il a réalisé pas mal de blockbusters hein, dans l'histoire du cinéma, Le Dent de la Mer en 75. Et il a enchaîné sur des succès après internationaux, E.T. l'extraterrestre en 82, la série des Indiana Jones, les Jurassic Park, enfin du moins Jurassic Park en 93, parce qu'il n'est pas tous à l'origine de la saga. La liste de Schindler en 93, Il faut soulever le soldat Ryan en 98, Ready Player One en 2018. Pour info, ils vont sortir ils vont tourner le 2.
Ah cool.
Ouais, il a fini de l'écrire, il va être bientôt disponible à la vente. J'ai un trou de mémoire, celui qui l'a écrit. Et Ready Player 2, il va sortir là en bouquin. Donc ils vont refaire le film. Donc apparemment, ça se passe juste après la fin du premier opus. Voilà, il est fondateur de la société de production Amblin Entertainment, hein, et cofondateur du studio DreamWorks. Et il a produit aussi pas mal de films, Poltergeist, The Gremlins, Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, la trilogie des Men in Black, Transformers. Voilà. Dans ses films notables, j'aime bien Duel. Duel, Les Dents de la Mer, les Indiana Jones bien sûr, E.T., Jurassic Park, la liste de Schindler, ouais, j'aime bien en général Ready Player One.
Ouais, bah, ça bouge hein, toujours.
Ouais, j'aime bien ces films. Bah ensuite on a Richard Dreyfuss. Vas-y, Blood.
Alors, donc, Richard Dreyfuss, qu'on avait déjà présenté dans un autre épisode, ouais, donc lui, il est né le 29 octobre 47, et donc, il est notamment connu donc pour son superbe rôle dans Les Dents de la Mer, et puis donc, c'est encore un film donc avec de Steven Spielberg, hein, donc comme tu disais juste avant, et il a reçu donc de nombreux prix, donc un Golden Globes, et un BAFTA Awards aussi, il a même reçu un Oscar meilleur acteur en 78, et donc à seulement 30 ans, pour son rôle dans Adieu je reste. Adieu je reste, si je me trompe pas, dedans il y a aussi Tony Curtis.
Je me souviens plus.
À moins que je confonde complètement deux films.
Là où il a fait. Et donc, ouais, vas-y, poursuis.
Sa période d'or donc elle se situe donc entre 73 et 87. Donc après cette date, sa carrière sera plus discrète, surtout après le demi-échec en 89 du film Always, également réalisé par Spielberg. Moi, personnellement, Always, j'aime bien ce film.
Ouais, enfin, bah après,
c'est pour tous les goûts. Hein.
Ouais, bien sûr.
Bon, après dans ses films notables, donc, toi, tu as sûrement des films préférés.
Ouais, bah, Les Dents de la Mer, Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type, American Graffiti, ouais, vite fait. Les autres, ouais, c'est vrai qu'il a pas fait non plus des trucs qui sont dans ce que j'aime, quoi. Mm-hmm. Bon, ensuite, on retrouve aussi François Truffaut. Lui, c'est un cinéaste français. Et il est né en 32. Et puis, il nous a quittés en 84. Bon, lui, c'est une figure majeure de la nouvelle vague, hein, entre 58 et 79, d'au moins une douzaine de comédies dramatiques, largement autobiographiques pour la plupart. Bon, après, il était vraiment dans la suite des réalisateurs comme Abel Gance, Jean Renoir, Jean Cocteau, Roberto Rossellini, voilà, bon, il a fait pas mal de films, hein, les 400 coups, Julie Jim, Fahrenheit 451, celui-là il est pas mal, le roman encore mieux, L'Enfant Sauvage, La Nuit Américaine, L'Homme qui aimait les femmes, La Chambre Verte, Le Dernier Métro. On va s'écouter un petit extrait, il y aura des anecdotes après, plus tard, avec François Truffaut dans Rencontre du Troisième Type.
Contrôle Indianapolis, signalé trafic pour RI-61. Eris 31 négatif, le seul trafic que j'aperçois est un L10-11 de la TWA sur votre position 6h, distance 21 miles. Vous avez un DC-9 à Legani à 12h aussi, à environ 50 miles. Bon, je passe sur écran large, vous gardez l'écoute, à vous.
Eris 31, j'ai un signal à 2h un peu au-dessus et en descente.
Eris 31, compris. J'ai moi-même un écho correspondant à la position indiquée. Je n'ai pas de trafic recensé à cette altitude. Je vais voir ce que j'ai sur les autres paliers. Regarde le trafic bas et tâche de savoir qui c'est.
Contrôle, ici Eris 31. Le trafic n'est pas sur un palier inférieur. Il est à 1h, toujours au-dessus de nous et en descente.
Eris, vous pouvez nous dire quel appareil?
Négatif. Je ne distingue pas les contours, à vrai dire. L'appareil est très brillant. Je n'ai jamais vu le feu anti-collision aussi éblouissant. Il passe du blanc au rouge. Les couleurs sont saisissantes.
Contrôle ici TWA-517. On dirait que l'appareil a des phares d'atterrissage très puissants. J'ai cru que Eris avait allumé les siens.
Eris 31, est-ce que vous confirmez qu'il est à 10h sur votre position et à 8 miles? Répondez à vous.
31, affirmatif.
L'appareil se déplace nord-est, pas d'altitude enregistrée.
Compris, contrôle. Je n'ai pas l'impression qu'il va nous gêner maintenant. Il va descendre à 1500 pieds au-dessus de moi. Un instant, gardez l'écoute. Attendez, contrôle. Eris 31, contrôle. L'appareil vient de virer plein nord. Il fonce sur mon pare-brise. Je vire à droite et j'abandonne le palier 350.
RS 31, descendez au palier 310 et tournez immédiatement de 30 degrés à droite. Il y a risque de collision.
Je répète, il y a risque de collision. Demandez-leur s'il y a des essais de missiles prévus.
Centre dédié à la police, y a-t-il des essais de missiles dans le périmètre 2508?
Balistique, répondez.
Compris, RS 31, continuez votre descente à volonté, à vous.
Contrôle, descente à volonté. L'appareil approche de face, très brillant et très rapide. Il passe à... Il nous a évité de justesse. Eris 31 à contrôle, je suis au palier... 3,
demandez-leur 4, s'ils veulent faire un rapport officiel.
TWA 517, voulez-vous faire un rapport sur un OVNI? TWA 517, voulez-vous faire un rapport sur un OVNI, à vous.
Négatif, contrôle. Nous ne ferons pas de rapport.
Eris, voulez-vous faire un rapport officiel sur un OVNI à vous?
Négatif, nous ne ferons pas de rapport non plus.
Eris 31, désirez-vous faire un rapport quelconque à vous?
Si je faisais un rapport, je ne saurais pas quel imprimé choisir.
J'avoue que moi non plus, Eris 31. J'essaierai de suivre l'objet à destination à vous.
Ouais, donc ça c'était un extrait où il y a une deuxième... apparition, on va dire, d'un phénomène inexpliqué. Ce qu'on entend là, c'est un film, mais dans la réalité, c'est un peu ça. Hein, quand les pilotes de ligne voient des trucs, certains sont vraiment frileux pour faire des rapports, parce qu'après, ils risquent leur carrière en étant vraiment écartés, parce que derrière, t'as raconté des trucs, ça peut être pris pour...
L'autre te demanderait d'aller voir le psy, par exemple.
Pas sérieux, etc. Machin, ouais, bien sûr, ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui, après, qui parlent, une fois qu'ils sont à la retraite, arrivés à 70 balais, quoi. Ouais. Bon, allez, on poursuit. Terry Garr.
Terry Garr, c'est une actrice américaine. Elle est née le 11 décembre 1944 à Lakewood, donc c'est dans l'Ohio. Elle a été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, donc entre 1983. Et donc elle, on peut la retrouver dans Tootsie. Superbe film.
Ouais, mais elle n'a pas vraiment... Elle n'a pas fait grand-chose, ouais, c'est vrai.
Ouais.
Bon, Melinda Dillon, c'est une actrice américaine. Elle est née en 1939. On peut la revoir aussi dans un film de 87, Bigfoot et les Henderson, c'est marrant ça. Mais ouais. Après, elle a pas vraiment fait grand chose non plus. Et on a pour finir Bob Balaban, c'est un acteur, scénariste, réalisateur, producteur américain. Il est né en 45. Et on peut le retrouver dans Macadam Cowboy. En 69, Et dans 2010, l'année du premier contact en 84. Sinon, on va rentrer dans les petites anecdotes autour du film. Et c'est vrai qu'elles sont nombreuses. Et le sujet est vaste. On pourrait même en parler, faire un épisode de 4 heures là-dessus, tellement il y a de choses à dire. Vu que à côté de ça, il y a de nombreux ouvrages, de nombreux documentaires, etc. Donc, c'est vrai que ça ouvre la porte à plein de choses. Au niveau scénario, tiens, pour commencer.
Alors, Paul Schrader, donc, qui a écrit le scénario original, mais Steven Spielberg considère qu'une bonne partie du script ne lui convient absolument pas et réécrit totalement le film comme il le souhaite le voir. Donc, la discorde vient du fait que Schrader souhaitait raconter cette histoire de contact extraterrestre du point de vue d'un militaire proche de la retraite, du genre Kirk Douglas, Burt Lancaster, Henry Fonda, Richard Widmack. Tandis que Spielberg, lui, voulait le raconter du point de vue de l'homme du peuple. Donc, le scénariste, ayant considéré le script comme la chose de Steven Spielberg, refuse d'être crédité au générique et ainsi renonce à toucher des pourcentages sur les recettes, ce que Schrader considéra comme étant la plus grosse erreur de sa vie.
Bah oui, parce que ça, c'est un film qui a cartonné quand même. Et on a des petits trucs aussi au niveau du choix du titre, hein, parce que à l'origine c'était Watch the Skies, regardez le ciel, ou regardez les ciels, tiens, parce que c'est même au pluriel, ce qui correspond au dernier mot du film La chose d'un autre monde, hein, de 1951, phrase qu'on entend durant le film dans la séquence où le dessin animé réveille Roy Neary. Hein, joué par Richard Dreyfuss, on l'entend dans le film. Le titre original finalement choisi est Close Encounters of the Third Kind, expression issue du système de classification de INEC, utilisé en ufologie, pour classer les rencontres rapprochées. On en reparlera après, donc, INEC, je rappelle, qui est le consultant technique du film. Et donc, dans ces rencontres-là, la rencontre du troisième type, hein, le stade RR3, correspond au fait de voir un OVNI et ses occupants, ou bien uniquement les occupants de l'OVNI. Le film montre des rencontres rapprochées allant jusqu'au type 5, puisqu'à la fin du film, il y a la communication avec les occupants, avec le vaisseau mère, hein, et puis même après, il monte même dans le vaisseau à la fin. Et puis bon, on verra un peu c'est vrai qu'il y a plusieurs types, hein. Il y a le fait de type 1, c'est juste, tu vois le... Ouais, faudrait que je retrouve le truc vite fait. Je l'avais pas préparé là, mais vu...
Au type 1, je pense que tu vois juste une forme...
Voilà, donc la classification de INEC, on a la rencontre approchée du premier type où les témoins voient un OVNI quel qu'il soit à moins de 150 mètres. On a la rencontre approchée du deuxième type, l'OVNI laisse des preuves matérielles comme des traces au sol. Hein, par exemple, il y a l'affaire de Trans-en-Provence en 81. On a là donc le troisième type, le où les témoins voit un OVNI et ses occupants, ou seulement les prétendus occupants d'un OVNI sans ce dernier. Rencontre de Valensol, par exemple, en 65. Et après, cette classification a été étendue. On a le quatrième type, le où les témoins prétendent avoir été enlevés par les occupants d'un OVNI. Le cinquième type, le où les témoins prétendent être entrés en communication avec les occupants d'un OVNI. Le sixième type, un ou plusieurs témoins, ou animaux même, sont tués par un OVNI ou ses occupants. Et enfin, le septième type, le où les témoins ont un rapport sexuel avec les occupants d'un OVNI à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci. Ah, mais rigole pas, hein, y a des témoignages.
Après, du coup, faut faire une classification, quoi.
Donc, et INEC, il est même présent, hein, dans le film.
Ouais, dans le film.
C'est on le voit à la fin, il joue son propre rôle, hein, c'est pas clairement dit, mais la séquence est très courte, ça fait un petit caméo du coup, et on le voit qu'il fume sa pipe et il arrive avec un petit complet gris, voilà, il a une barbiche, voilà. C'est vraiment vraiment dans les derniers quarts d'heure, 20 minutes du film. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il est aussi le consultant de Steven Spielberg lors du film, puisque il est issu de ce classement, et on verra un petit peu plus tard, parce que il a fait aussi des ouvrages, et il est, comment dire, il est dans une série, c'est pas lui qui a joué dans la série, mais son rôle est incarné dans une série. Allez, on va s'écouter un petit extrait.
Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous parlez tous le français. Merci. Il est possible qu'un jour, nous parlerons tous un langage codé. Je voudrais ce soir soumettre à votre réflexion un élément musical que nous avons pu recueillir en Inde. Nous pensons qu'il va dans le sens de nos recherches. Nous pensons que c'est un fait capital. Pour vous aider à suivre, j'utilise le langage gestuel créé par Zoltán Kodály. Kodály a élaboré ces signes pour enseigner la musique aux enfants atteints de surdité. Alors, voici le premier son. Le premier son, s'il vous plaît. Voici le deuxième son. Troisième son. Quatrième son, c'est la même chose. Le cinquième, qui est le dernier. Et maintenant, tous les sons ensemble, s'il vous plaît.
Voilà. D'où ça vient cette musique qu'on a maintes fois entendue. Et là, on le voit pas dans le film, mais il fait les signes, en fait, les signes pour interpréter la musique pour les sourds et malentendants. Et il fait les gestes en même temps. D'ailleurs, ce petit extrait-là, machin, on l'entend dans un James Bond. C'est lequel? Un avec Roger Moore. Quand il fait tapote au clavier. Et ça fait cette musique-là. Je ne me rappelle plus.
Peut-être le beau pistolet d'or, peut-être.
Ouais, les diamants sont éternels. Non, je sais plus. Ah, bref. On le voit dans un James Bond. On va poursuivre. Après cette petite extrait musical. Au niveau de la distrib des rôles, tiens. Pour le rôle de Roy Neary, le réalisateur Steven Spielberg approche d'abord les acteurs Steve McQueen, Dustin Hoffman, Sylvester Stallone. Voilà, je pense que je sais pas si ça l'aurait bien fait que Stallone. Jen Hackman même. Avant que soit choisi Richard Dreyfuss et Toby Neary, le second fils de Roy dans le film, est interprété par Justin Dreyfuss, le neveu de Richard. Et Spielberg admire François Truffaut, qu'il veut impressionner par l'immensité du studio alloué au film à Mobile, en Alabama, se rendant compte que Truffaut n'a tourné ses films que dans des petits studios, presque intimes, et qu'il ne pouvait simplement pas saisir l'immensité du hangar, Spielberg entre dans la salle où Julian observe les informations, lève les bras en l'air et s'exclame « Ça, c'est un studio !» C'est ce qui a convaincu Truffaut de tourner avec son admirateur. Et au préalable, le rôle de Claude Lacombe est proposé à l'acteur Lino Ventura, qu'il refuse, tout comme Jean-Louis Trintignant, qui avait déjà refusé Duel auparavant. Et Truffaut est honoré et très ému de la proposition de Spielberg, tout comme sa participation au projet, ce film lui donnant par la suite une aura internationale immense, tant et si bien qu'il a eu le Truffaut d'avant et après 77. En quelque sorte, ce film est pour Truffaut une consécration et il est adoubé par ses pairs, dont Spielberg. Et comme Truffaut parlait très mal l'anglais, Spielberg accepta qu'il parle français dans la version originale et que le personnage de David Login, interprété par Bob Balaban, donc l'assistant de Claude Lacombe, traduise en anglais les propos de son collègue. C'est pourquoi la version française peut parfois paraître étrange, parce que Login ne faisant que paraphraser les dires de Lacombe, voire parler en même temps que lui. Ou même des fois quand il est de dos, il dit carrément autre chose. Si t'écoutes la VO, tu entends bien que, en fait, Login, il traduit tous les propos de Neri pour donc le. Mince, j'ai oublié le.
Faudra que je l'envoie en VO alors.
Le rôle de. Le rôle de.
C'est Dreyfus ?
Oui.
Non ?
Oui. Mais son nom dans le film.
Neri, tu l'as dit.
Mais non. Non, non. Pas Dreyfus, Truffaut.
Ah, Truffaut, merde, tu l'as dit tout à l'heure.
Lacombe. Voilà, c'est ça.
Ah oui.
Et donc, en VO, il traduit tout. Et comme ça, Lacombe, il a tout, voilà, et même quand Lacombe parle, du coup, c'est Login qui traduit tout en anglais à Neri. En VF, c'est vrai que des fois, en fait, il dit complètement autre chose que la VO. Enfin, non, Login dit complètement autre chose que dans la VO. Et quand il est de dos, bah du coup, ça se voit moins. Mais ouais, c'est vrai que des fois, c'est vrai que quand tu traduis, tu parles en même temps que l'autre. Donc,
ouais.
En VF, ça peut faire bizarre. Mais bon, ouais. Et en fin de compte, bah, dans la version originale, Truffaut, il a deux ou trois répliques en anglais, mais qu'il prononce avec un accent français. Hein. Et je crois que quand il dit la phrase "They belong here more than we", ils sont autant à leur place ici que vous et moi, il la prononce "They belong here more than we". C'est vrai que ça fait vraiment l'accent Frenchy.
Et ouais.
Et sinon, le père Spielberg, il flippait un peu et limite, il avait classé son scénario Secret Défense. Hein, Blood, tu peux nous dire quoi là-dessus ?
Bah ouais, donc il avait peur que quelqu'un d'autre s'empare de son idée, donc il a vite fait pour mettre en boîte le film. Et donc, c'était placé secret sous haute surveillance. À tel point que même un jour, Steven Spielberg, il s'est vu refuser l'accès au plateau par les vigiles parce qu'il avait oublié sa carte d'identité. Bon, déjà, les gars, ils ne devaient pas savoir la tête qu'il a parce que pour ne pas laisser arriver au studio. Et donc, le montage a lui aussi été effectué à l'abri des regards. Non, il n'a pas été fait en studio, mais dans un appartement situé à Marina del Rey. C'est dans le comté de Los Angeles. Et c'est de quelle heure, lorsque le long métrage a été prêt à être distribué, que la communication a pu commencer. Donc.
Ouais. Bon, on sait jamais après pour les vigiles, là, si c'est un mec qui s'est fait la gueule de Spielberg.
Ah ouais,
la
ah,
casquette, ça fait penser à un truc,
ça a rien à voir, c'est comme par exemple à Roland Garros, il y a Nadal, il avait pas son badge autour du cou, et puis t'as le vigile, il a fait oh, vous passez pas. Il a fait
Moi, sinon, t'as une petite apparition dans le film qui a servi à rien. Qui a servi à rien, pourquoi ? Parce que il était venu jouer les figurants, qui, bah, c'est le père de Richard Dreyfus, et il a passé 6 mois sur le plateau pour finalement voir ses scènes coupées au montage. Allez, on va s'écouter un quatrième extrait.
Donnez la première note. Temps joué. Un ton plus haut. Descendez d'une tierce majeure. Descendez d'un octave.
Code bleu.
Allez.
Remontez d'une quinte juste.
Rien du tout, pas le moindre écho.
Premier
Première note.
Ré à la seconde.
Montée d'un ton.
Mi à la tierce.
Vous passez au Do tonique.
Do tonique.
Descendez d'un octave.
Do à l'octave, oui. Sol à la quinte juste.
C'est donc la scène où il y a plein d'ovnis qui sont devant eux et du coup ils prennent contact comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Eh ben on va passer à la suite, peut-être que ça me reviendra. Pour en revenir à François Truffaut, lui, pour compenser les faiblesses de son anglais. Il a trouvé plusieurs astuces lui permettant de jouer ses scènes sans trop de problèmes, en collant ses répliques sur des objets qui n'étaient pas dans le champ de la caméra, voire lorsqu'il argumente avec un officier qui nous tourne le dos, en agrafant son texte sur la poitrine de son interlocuteur. Voilà, donc une technique qu'il avait mise au point quelques années plus tôt, puisque là, on la retrouvait dans La Nuit américaine, mise en scène par ses soins en 73. Donc voilà, bon. Anti-sèche ? Eh, ça marche ?
Ouais, c'est pas interdit.
Bah non. qu'est-ce qu'on a sur Melinda Dillon, tiens, Blood?
Ouais, un truc amusant. La scène au cours de laquelle il y a des objets qui volent dans la cuisine était pas particulièrement effrayante à tourner. Surtout que donc il n'y avait eu aucune répète avant. Donc c'est pour cette raison que ces réactions paraissent aussi spontanées lorsqu'elles cherchent vraiment à se protéger ou à mettre Carrie Guffey hors de danger. Castée à une semaine du début des prises de vue, la comédienne est passée par différentes émotions, et ce jusqu'au bout, puisqu'elle a concouru pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.
Et donc, Spielberg, il avait un peu flippé par rapport à la censure, parce qu'il a craint que la scène soit trop effrayante pour un public encore à peine remis des dents de la mer, et surtout avec... un enfant, quoi, impliqué dans la scène. Et donc, du coup, les patrons de la Columbia se sont opposés à la scène de l'enlèvement de Barry par les extraterrestres et ont exigé le tournage d'une version alternative dans laquelle Gillian sauve son fils. Des images mises en boîte par le metteur en scène qui ne les utilisera pas pour autant dans le montage final. Bon, apparemment, la censure s'est passée, quoi. Après, niveau décor, on avait du lourd, hein, parce que on avait 27 mètres de hauteur, 137 mètres de long, 76 mètres de large. Le site d'atterrissage des soucoupes volantes est tout simplement l'un des plus grands décors de cinéma jamais conçus en intérieur. Sa structure comprenait 6,4 km d'échafaudage, 1570 mètres carrés de fibres de verre et 2740 mètres carrés de verrières de nylon. Non, c'est pas un plateau de tapette, hein. Ouais, c'est là où on a le décor où on est à la Evil Tower, je crois.
Ouais, avec tous les éclairages machin là, à la fin, ouais.
Ouais, non, mais là, c'est Evil Tower, je crois, la montagne.
Ouais, je crois bien.
Parce qu'elle existe, cette montagne-là, en vrai. C'est pas du trucage ou du paint making rajouté sur la péloche, quoi. Ouais, du coup, il y a un truc délirant à raconter. Quand à la Devil Tower... Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Ouais, c'est ça, Devil Tower. À la Devil Tower, quand le vaisseau mère arrive, ça fait... D'un seul coup, il y a plein de nuages qui arrivent. Et en fait... afin de créer les nuages qui confèrent une ambiance à certaines scènes, à cette scène-là, le responsable des effets spéciaux, donc Douglas Tumbull, a versé de la peinture blanche dans une cuve remplie par un mélange d'eau salée et d'eau froide. Donc après, il a dû filmer ça par en dessous, avec de la lumière par-dessus, et ça a donné ça. Fallait y penser. Et puis aussi au niveau effets spéciaux, c'est en filmant les miniatures de soucoupes volantes dans une pièce sombre et remplie de fumée qu'il était possible de leur conférer ce halo si impressionnant en renforçant la puissance de leurs rayons lumineux. Et sinon, on parlait du quand le vaisseau mère il arrive justement à la Devil Tower, juste au tout début, on voit R2-D2. Et un petit clin d'œil à R2-D2 qui est la tête en bas il est collé les pieds sur le vaisseau mère, un petit clin d'œil.
Faudra que je le revoie parce que j'ai jamais fait quelque chose.
Allez, on va s'écouter un dernier extrait.
Monsieur Neri, je vous envie.
Ah ouais, c'était un petit court extrait, mais c'était quand Lacombe il dit ça à Neri parce que Neri, du coup, il va repartir dans la soucoupe avec les extraterrestres et il crève d'envie d'y aller, mais bon, il n'a pas été sélectionné. Et puis sinon, rencontre du troisième type, il a fait un petit record mondial, Blood.
Et ouais, donc il a fait.
Il a pas fait, il fait toujours.
Ah ouais, projeté tous les soirs dans le camp situé au pied de la montagne, donc appelé la Tour du Diable, rendu célèbre donc par le long métrage, ce qui en fait donc l'un des films les plus projetés de tous les temps. Et ouais. C'est sûr que s'il passe tous les soirs, forcément.
Ah bah ouais. Après, on a pas mal de récompenses.
Alors, National Board of Review 77, donc prix spécial pour les effets spéciaux du film. Ensuite, Oscar 78, donc Oscar de la meilleure photographie pour Vilmos Zsigmond. Oscar pour une contribution spéciale à Frank Warner pour le montage des effets sonores. Un Saturn Awards en 78, donc Saturn Awards de meilleur réalisateur pour Steven Spielberg. Donc décerné à égalité avec George Lucas pour l'épisode 4 donc, de Star Wars. Un Saturn Award de meilleur scénario, donc toujours pour Steven Spielberg. Saturn Award de la meilleure musique pour John Williams. Doublement récompensé, vu qu'en 77, il a aussi avec Star Wars.
Ouais,
ensuite, il y a eu un David Di Donatello en 78, prix du meilleur film étranger pour Julia Phillips et Michael Phillips. Un Motion Picture Sunday Disaster 79, Golden Reel Award du meilleur montage et des effets sonores, British Academy Film Awards en 79, donc BAFTA, hein, de la meilleure direction artistique pour Joe Alves, prix Golden Lenswood 79 pour le meilleur film, et Grammy Awards, donc meilleur album de musique de film pour John Williams.
Ouf! Moi, j'ai pas mis les nominations, hein, parce qu'il y en avait aussi un long comme le bras.
Et, oui, puis là, il y avait quelques récompenses pas très connues.
J'ai mis que les récompenses parce qu'il y a eu pas mal de nominations. Tout à l'heure, on parlait de Hynek. Donc, lui, Joseph, c'est pour ça, le J, c'est Joseph Allen Hynek. Il est né en 1910, il nous a quittés en 86. C'est un astronome, professeur et ufologue américain. Et donc, il a été conseiller scientifique du projet Blue Book entre 51 et 69. Le projet Blue Book, hein, c'est justement l'US Air Force qui a créé en 48 le projet Cygne Et donc, du coup, ils ont fait appel à INEC après. Mais c'était surtout au début pour faire de la désinformation au sujet des ovnis, etc. Et puis, INEC, il a été un petit peu manipulé par l'US Air Force pour lui faire dire que tout ce qui était observé, observation visuelle, radar, etc., par les pilotes de chasse, par les pilotes de ligne, par la police, etc., c'était du pipeau. Bon, il a compris trop tard qu'il s'était fait avoir. Bref. Et il est à l'origine donc du classement des rencontres. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Il a écrit aussi pas mal de bouquins. Ils sont difficiles à trouver ces bouquins maintenant parce qu'ils ont pas été réédités. Il en a écrit 5-6. Toujours sur les ovnis, etc. Normalement les ovnis dans la vallée de l'Hudson, des rapports d'observation d'ovnis, des trucs comme ça. Si pour compléter le sujet aussi, on a même les bouquins écrits par Jean-Pierre Petit, par Jean-Claude Bourret, par les deux même, des fois ils sont auteurs du même bouquin ensemble. On a aussi les bouquins de Stephen Greer. On a aussi le bouquin qui vient juste de sortir de Thiago Luiz Tichetti, sur les observations d'OVNI au Brésil. Il y a le site français aussi du GEPAN, où on peut même, si un jour on observe un OVNI, déclarer son observation sur le site même du GEPAN. Il y a des documentaires et des séries, séries TV, une série française tiens en ce moment, OVNI, ça se passe en 78, c'est pas mal fait parce que en fait ils ont vraiment repris toute l'ambiance, toute la déco, les bagnoles et tout des années fin 70, 80, c'est trop top. Sauf les poteaux de foot où ils les ont laissés ronds. Bon, tant pis. j'ai remarqué ça dans un épisode. On a les dossiers déclassifiés américains qui passent sur tout ce qui est Planète ou RMC. Ça aussi, c'est tout ce qui est des trucs de rapport de l'armée, d'observation.
Ça, c'est souvent des trucs comme ça, comme émission. Ouais.
Et on a aussi une série, je crois qu'il y a eu deux saisons, qui s'appelle Projet Blue Book, et où INEC est mis en scène dans la série. Voilà. Et on a même une autre série présentée par Laurence Fishburne. Dans Matrix, c'est celui qui fait... ça y est, pas Neo... Morpheus. C'est une série documentaire qui s'appelle History Greatest Mysteries, où il y a trois épisodes concernés à Roswell, le premier témoin. Voilà. Sinon, le reste, c'est d'autres choses, sur des phénomènes un peu mystérieux, paranormaux, etc. T'en as pensé quoi du film Loud?
C'est un film de science-fiction. Moi j'ai toujours bien aimé ce film, hein. Déjà dès le début on se demande ce qui va se passer, enfin on s'en doute un peu, mais on est tout de suite dans l'ambiance, quoi. Chaque famille cherche à savoir, surtout quand l'autre il fait ça avec sa purée là, comme s'il fait il fait la montagne avec sa purée.
Ouais, c'est
ça,
vrai,
c'est
que
le truc qui m'a bien marqué, ça n'a pas marqué. Ouais, ouais. Enfin, quoi dire d'autre, à part que je l'aime bien comme film, je saurais pas trop.
Bah écoute,
je saurais pas trop argumenter.
C'est vrai que moi j'aime bien, bon, hormis que c'est un bon film de science-fiction, mais c'est un film qui laisse à réfléchir sur ce qu'on est amené à pouvoir voir
si un jour on les rencontre.
Ou ce qu'on peut voir après dans des témoignages, etc. Et c'est vrai que dans le film, le fait qu'ils voient des choses et qu'après ils soient obstinés, qu'ils entendent des musiques dans leur tête, etc. Il y a certains phénomènes ou enfin certains témoignages, notamment sous hypnose, où les gens racontent des trucs vraiment bizarres. Où il y a des fois des montres, enfin où il manque du temps. Par exemple, je sais pas moi. La personne se fait enlever, elle revient, elle voit quelque chose, c'est comme s'il y avait sa montre retarde de 12 minutes ou d'un quart d'heure, par exemple. Certains, à la date anniversaire où ils ont vu le phénomène où ils se sont fait enlever, ils ont une manifestation cutanée, donc corporelle, hein, on ne sait pas d'où ça vient. Et sans compter après tout ce qui est filmé. Bon, après j'écarte toutes les clauses, toutes les trucs où c'est du trucage, photo, montage vidéo, etc. Mais les trucs qui sont analysés par des spécialistes, où les photos et les films sont authentiques, on n'arrive pas à expliquer ce que c'est. Bon, moi je dis pourquoi pas, comme dans le film, hein, pourquoi on pourrait pas être visité par une intelligence qui viendrait d'ailleurs, sachant que l'univers a quoi potentiellement 14,4 milliards d'années, la Terre en a 4,5 milliards, l'homme tel qu'on le connaît, c'est quoi, quelques milliers d'années, quelques dizaines de milliers d'années. Si des planètes s'étaient formées avant la nôtre, ne serait-ce que même quelques milliers, voire même millions d'années, au vu de l'avancée des technologies, là je vois moi en 20 ans, hein, si on prend par tranche de 20 ans, allez, entre 2000 et 2020, pour moi, ça a vachement plus avancé qu'entre 80 et 2000.
Ouais,
donc... si une civilisation, une planète s'était formée bien plusieurs milliers, voire millions d'années par rapport à la nôtre en avance, ça serait énorme les avancées scientifiques et les avancées technologiques qu'ils auraient. Et nous, même les premiers, regarde, nous, on a été sur la Lune, on veut aller sur Mars, et on aurait la technologie pour pouvoir aller explorer la galaxie et même au-delà, on le ferait. Alors pourquoi eux le feraient pas? Et si nous, par exemple, on allait là-bas, c'est vrai que si on se pointait comme ça dans leur atmosphère de leur planète, parce qu'on a découvert une planète, on n'arrête pas de découvrir des exoplanètes en voiture, en voilà tous les jours. Si on débarquait avec notre vaisseau sur la planète, ça paraîtrait bizarre aussi.
Bah ouais.
Donc moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Vu les possibilités qu'il y a de la zone de vie autour d'une étoile, notre soleil est une étoile, on est dans la bonne zone pour avoir de la vie. Moi je dis que vu le nombre d'étoiles qu'il y a, vu le nombre d'exoplanètes, moi je dis pourquoi pas. Donc voilà, donc ce film, ça démarre plein d'interrogations, ça ressemble à des... C'est mis en scène, bien sûr, mais ça ressemble à des témoignages que certains font, civils ou même militaires. Ouais, voilà. Après, moi, je dis tout ce qui est anti-gravité, tout ce qui est hyper-vitesse, donc certainement avec des moteurs... magnétique, hydrodynamique, etc., dit MHD, donc ils font pas de bang sonore, hein, comme nos avions qui passent le mur du son, voilà, tout ce qui est, je dis, il nous manque la technologie, peut-être maîtriser l'antimatière pour avoir des pour pouvoir voyager plus vite que la lumière, explorer les trous de ver, etc., on n'a pas fini, hein, là, au niveau de la science, On n'est qu'au début, je pense qu'il nous manque beaucoup à découvrir. Et quand on aura découvert certaines choses et qu'on aura la technologie, je pense que c'est la technologie qui nous manque. Mais en attendant, après, ils peuvent venir ici. Et après, ça dépend hein, s'ils sont gentils, méchants, ça...
Il y a sûrement plusieurs sortes. Hein.
Bah regarde, nous, des fois...
Pourquoi il y aurait une seule planète où il y en aurait des extraterrestres?
Nous, on est tellement cons, entre guillemets, parfois, qu'on voit un truc qui nous fait peur, on lui tire dessus. Donc, voilà, après, eux, ils pourraient se pointer, et puis ça leur fasse peur, et puis qu'ils nous tirent dessus aussi, hein, pourquoi pas.
Mais...
Ouais, voilà, je dis, ce film... et puis même dans le film, on voit la mise en scène des militaires pour cacher le parce qu'ils savent qu'ils vont avoir rendez-vous ici à la Devil Tower. Donc pour interdire la zone aux civils, ils maquillent la vérité, etc. Bon, ça pourrait être ils pourraient agir de la sorte. Ouais. Ah ouais, non mais ouais, moi je dis. Ouais, c'est un bon film qui, pour être réaliste, qui amène à plusieurs questions et ouais, qui laisse réfléchir, quoi, voilà. Qui ouvre la porte à d'autres trucs à lire, à regarder. Voilà, voilà ce que j'ai à dire. Ben voilà, on a fait notre petit tour. On est à combien là? Pas loin d'une heure. Bon, ça va, on n'a pas...
Bah, si il manque un quart d'heure, c'est qu'il y a eu un truc bizarre, justement.
C'est ça. Mais bon, après, on pourrait s'étaler là-dessus avec tout ce qui a été raconté, les ouvrages, etc., machin. Je parle pas des trucs pas sérieux, mais je reste dans les trucs vraiment sérieux, observables, et qui ont été mesurés, etc. Donc, il y a des choses qui ont même été mesurées... Après, à ce que l'objet ait atterri, et c'est pas dans le tableau périodique des éléments. Donc, quelle matière c'est, on ne sait pas. Donc voilà, enfin plein de trucs comme ça, quoi. Donc bon, un jour peut-être que les gouvernements savent, peut-être que l'armée sait, peut-être que un jour ça sera dit, mais c'est pareil, si c'est dit, ça risque de faire pas mal de... pas de révolte, etc., mais par rapport à toutes les croyances, etc., ça... Ouais, mais je pense que un jour, il y aura quelque chose. Ouais, c'est sûr que si d'un seul coup, il y a un vaisseau mère de 10 km de diamètre au-dessus de nos têtes, hein, on pourra punir.
Ça, c'est clair. Ah oui, si ça fait comme dans d'autres films, après, là, tout de suite...
Ouais.
Déjà savoir s'ils sont gentils ou pas.
C'est ça. Voilà. Bah sinon après vous pouvez venir sur le blog hein, archeociné.ddns.net justement pour voir la tête de Inek et les captures que
des oh, pas la mienne
fait et tout. Ah ouais non, bah, pas nos tronches. voilà et bah on va finir par le générique de fin. Et puis, on va se dire à la prochaine fois. Et puis, si vous voulez un petit don, Tipeee, Paypal, etc. Toutes les références sont sur le blog. Voilà. On vous dit à bientôt. On vous embrasse fort. Ciao.
Et bon film.
Yes.
Salut.